si je résume un peu rapidement, une première expérience de 4 ans dans l'entrepreneuriat avec des difficultés, beaucoup d'apprentissage. 2 ans de retour dans le salariat où tu apprends aussi peut-être d'autres choses, tu acquiers de nouvelles compétences. Et là, à 32 ans, tu te dis, ça y est, je suis grand, entre guillemets, je reprends ton expression. Et c'est là que tu décides vraiment de te lancer dans la franchise.
Exactement.
Comment se fait ton choix du coup pour ta première franchise? Comment tu choisis la première franchise que tu vas lancer?
Alors, à l'époque, je savais que je voulais retourner à la restauration, bien que ce soit un métier qui soit dur, parce que j'ai passé des très bons moments et le fait d'aimer ce qu'on fait, c'est quelque chose qui est primordial vu le temps qu'on passe dans son travail et les investissements personnels et financiers qu'on y fait. À l'époque, je fais comme beaucoup de monde, je vais sur les sites internet, je regarde un petit peu tout ce qui se passe dans la restauration, je fais le salon de la franchise, je vais voir le salon de la franchise, je regarde un peu toutes les activités de restauration, je vais voir des grandes enseignes, je vais voir KFC, et, par exemple. Et à l'époque, c'est marrant, c'est quelque chose qui m'a marqué, c'est que je n'avais pas été pris au sérieux. Je suis arrivé sur le stand de la franchise, donc un stand hyper imposant. Et là, à l'époque, il y avait le directeur Europe, je ne sais pas quel titre il avait, mais un nom à rallonge anglo-saxon. Et il me voit arriver sur le stand et il me dit oui, vous voulez faire quoi? Vous êtes là pourquoi? Et je lui dis écoutez, je m'intéresse, j'ai envie de monter un projet de restauration rapide. Et là, il me fait même pas rentrer sur le stand. Il y avait cet a priori de la jeunesse qui faisait. Qu'il ne me prenait pas au sérieux. Et j'essaye de batailler en lui donnant deux, trois arguments. Et puis, il me fait une petite tape sur l'épaule. Il me dit, allez, installez-vous. Je vais vous prendre 5 minutes en entretien. Et puis là, il m'explique que c'est des investissements incroyables, qu'il faut manager 50 personnes, etc. Et je lui dis, ouais, moi, je suis chaud, donc il n'y a pas de problème et tout ça. Et il a rigolé. Et puis, il m'a laissé en me disant, non, mais. C'est quand même bien à votre âge, en me tapant sur l'épaule, d'essayer d'entreprendre, c'est une bonne chose. Et puis, j'espère vous revoir un jour, etc. Donc, c'était assez. Voilà, tu as ce sentiment, quand tu as une trentaine d'années, d'aller au salon de la franchise, tu te forces pour avoir un peu une crédibilité, tu sais, de dire, voilà, moi aussi, je suis entrepreneur, un peu. On en parlait sur l'aspect immobilier. Quand tu te formes à l'immobilier et que tu fais tes premières visites, au départ, tu as un peu le syndrome de l'imposteur et tu as besoin de trouver cette légitimité-là. Et sur le premier stand sur lequel je vais, on me dit que je ne correspond absolument pas et que c'est beaucoup trop tôt et que c'est beaucoup trop gros pour moi. Voilà, ça remet en question. Après, je ne me suis pas laissé abattre, la faculté de vouloir rebondir. Et là, je suis allé voir d'autres enseignes. Et à l'époque, je m'étais fait une petite liste dans ma tête de critères pour la franchise idéale que je voulais avoir. Je voulais manager des personnes, puisque c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, c'est surtout un effet de levier entrepreneurial, parce que lorsqu'on crée son propre emploi et qu'on n'a pas de salarié, c'est difficile d'avoir un effet de levier pour pouvoir se développer par la suite. Je voulais que la société fasse plus d'1 million d'euros pour avoir un certain volume d'activité. Et c'était la liste au Père Noël. Je voulais que l'entreprise existe depuis plus de 30 ans pour pouvoir avoir un historique et avoir une durabilité de l'enseigne.
Donc ça, c'était tes 3 critères du
Oui,
coup?
tout à fait.
Ok. Et donc ça, tu l'as eu avant d'aller à ce salon du coup? Ça a été quand même une réflexion avant de te dire,
Oui.
ok, j'ai eu cette première expérience entrepreneuriale. J'ai eu une expérience grand groupe. Maintenant, je me sens assez mature pour lancer la franchise, qui est un petit peu un rêve que j'avais de jeunesse. Et la sélection, tu l'as faite en te renseignant un petit peu à droite, à gauche, sur voilà, je me donne 3 critères qui me paraissent bons pour essayer de sélectionner, comme on pourrait dire par exemple pour un immeuble. Ok, je veux un immeuble pas dans le pire quartier. Parce que je veux avoir plutôt des bons profils, pas trop cher non plus, parce que je ne veux pas me griller complètement sur cette première opération, mais avec une rentabilité suffisamment bonne pour me dire, voilà, ça vaut le coup de le faire. Enfin, tu t'es mis un petit peu des critères sur voilà vers quoi je veux aller,
Oui,
et tu es allé au salon
le
avec cette
parallèle à
idée-là.
l'immobilier sur l'immeuble de rapport, chose que je connais, c'est peut-être de se dire, parce que j'avais fait la même chose dans les immeubles de rapport, à l'époque je me disais, mes cibles, il faut qu'il y ait plus de 4 logements, par exemple, parce que ça permet de répartir le risque, ça permet d'assumer des charges fixes sur plusieurs logements. Ça permet de, voilà, de répartir. Donc, je m'étais fait ces critères sur une zone géographique, un nombre de locaux, une typologie de logements, etc. Donc, sur la franchise, je me suis fait cette petite liste pour pouvoir trouver une cible intéressante.
Alors du coup, Jean-Sébastien, ce salon de la franchise, du coup, il y a eu ce premier stand où on t'a un peu pris de haut. Comment ça se passe ensuite?
Ensuite, je fais un peu le tour de différentes enseignes. Alors, l'accueil est complètement différent, mais c'est vrai que cette anecdote est marrante, en fait, où les gens ne perçoivent pas, en fait, il y a une question de crédibilité externe, où quand on est jeune, peut-être que c'est un point qu'il faut travailler dans la posture, ou peut-être que c'était la personne qui n'a pas cru initialement, ou on ne correspond pas, en fait, au profil recherché. Et c'est vrai que cette enseigne recherche plutôt des profils de la cinquantaine avec un profil investisseur et peut-être des moyens qui étaient supérieurs. Donc, bon, voilà. Donc, j'ai échangé avec beaucoup d'autres enseignes, j'ai fait un peu mon marché. C'est vrai que c'est un salon qui permet d'accéder à la réalité. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de recherche de franchise, quand on est sur son canapé avec son ordinateur à regarder froidement les droits d'entrée, les apports, le chiffre d'affaires prévisionnel, au salon de la franchise, en fait, on a la chance souvent d'avoir des décideurs qui sont présents sur les stands, puisque c'est un moment fort pour les enseignes qui souhaitent se développer. Et l'intérêt, c'est aussi d'avoir la capacité d'aller discuter directement avec les décideurs. Si j'ai des conseils à donner, c'est d'essayer de tout de suite rentrer en contact avec le développeur et demander est-ce que le fondateur ou est-ce que le DG est là, puisqu'en fait, vous allez déjà travailler votre potentiel dossier de candidature. Et cette personne-là, bah, vous ne serez plus un dossier parmi tant d'autres, et vous serez une personne qui a été identifiée, avec qui il y a eu déjà un premier échange, un premier feeling. Donc le salon de la franchise, s'il y a un intérêt au-delà d'avoir toutes les enseignes, c'est aussi d'aller voir commencer en fait son projet de candidature, commence à ce moment-là.
Ok. Et donc là, du coup, c'est sur ce salon-là que tu identifies ce qui sera ta première franchise?
Eh bien non. La franchise n'était pas présente puisque trop petite à l'époque pour aller au salon de la franchise.
Ok.
Donc je rencontre plein d'autres franchises et c'est par la suite sur Internet que je vais détecter cette enseigne Memphis. Qu'est-ce qui m'a plu chez Memphis? C'est que bah, il y a plusieurs critères qui correspondaient. C'était des chiffres d'affaires supérieurs à 1 million d'euros. C'était du management de personnes en moyenne, c'était une vingtaine de personnes à manager. Le critère qui ne rentrait pas, c'était l'existence depuis plus de 30 ans. Mais j'ai cru comprendre de mon expérience que les enseignes de plus de 30 ans, bah c'est no notamment celle qui m'a refoulé sur le perron, avaient un profil de recherche de franchisé qui était différent et je ne correspondais pas à ce profil-là. Donc du coup, bah le bon match, c'était peut-être de trouver une enseigne qui bah était en devenir et sur lequel il y avait un pari à faire, et qui était plus à même de recruter des candidats, on va dire, plus juniors que des enseignes déjà établies.
Là, c'est vraiment intéressant. On voit que tu pars avec des critères, tu te rends compte que ça va a priori pas fonctionner, et donc tu fais aussi évoluer ces critères-là en te disant, bon, il y a ceux qui seront non négociables, le chiffre d'affaires annuel et manager une équipe dans un domaine qui t'a plu et dont tu as eu l'expérience interne, la restauration. Mais voilà, il y a un de tes critères que tu fais évoluer, tu te rends compte que les enseignes qui ont plus de 30 ans, qui ont une solidité, une assise qui te plaisait, ben, tu as l'impression que ça ne marchera pas pour ton profil et donc tu adaptes ça et tu vas vers une enseigne qui ne coche pas cette case-là, mais qui par contre sera contente de t'accueillir.
En fait, finalement, c'est une question de pragmatisme. Tu te rends compte que des enseignes déjà préétablies, ils ont des critères de candidats, ils ont des critères très, très fixes dans leur volonté de recruter. Et à un moment donné, ben, en fait, la réalité du terrain fait qu'il faut s'adapter et que le seul moyen d'aller vers l'objectif qui correspond sur les deux premiers critères, ben, c'était de dire, ben, finalement, il faut être un peu plus souple sur l'enseigne ciblée. Et trouver une enseigne qui est plus jeune et qui aura vocation à avoir des candidats peut-être moins stéréotypés.
Ok. Et du coup, comment ça se passe? Alors, tu identifies que Memphis pourrait bien correspondre à tes attentes. Mais pas du tout à ce salon finalement. Donc ça s'est fait combien de temps après, puisqu'elle n'y était pas présente?
Alors, j'ai pas mémoire exactement de combien de temps après ça s'est fait, puisqu'en fait, c'est un travail, on le verra plus tard dans la formation, mais il y a quand même un travail un peu statistique, de back-office, on va dire, et d'études pour cibler une entreprise avant d'aller la voir, hein, de savoir un peu combien il y a d'unités, quels sont les chiffres d'affaires réels et tout ça. Et donc, j'ai plus en date exactement le temps que j'ai mis. Par contre, je sais que la première impression a été bonne. J'ai fait ma candidature sur le site internet et j'ai été recontacté extrêmement rapidement par le développeur de l'enseigne, avec qui on a pris un rendez-vous très vite. Et ça a matché. Dans les affaires, on se rend compte que souvent l'histoire d'humain est au cœur en fait de la réussite et en tout cas des relations. Et du coup, ben, tout de suite, on a travaillé ensemble sur comment, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble entre Memphis et moi.
Ok, et donc du coup, tu me disais tout à l'heure, c'est pas à l'américaine, je rencontre sur le salon de la franchise le stand KFC, je me fais prendre de haut, un quart d'heure après, je vais sur un autre stand, et success story, je lance un Memphis et tout cartonne. Non, tu me dis qu'il y a 3 ans en fait qui se passent entre ce salon et l'ouverture de ta
Effectivement,
première
ouais.
franchise.
Donc en fait, entre le moment où il y a l'idée et la volonté d'aller dans l'entrepreneuriat et de monter la franchise, il s'est déroulé 3 ans. Donc en fait, c'est important et c'est vrai que la formation a donné des clés pour permettre d'accélérer ce moment-là, la mise en pratique en fait de la franchise. Et c'est vrai que dans le domaine du commerce, le fait de trouver un emplacement est déterminant en fait, un bon emplacement. Souvent les règles de la franchise, on le entend souvent, c'est emplacement, deuxième règle emplacement et troisième règle emplacement. Et à l'époque, je savais que ces éléments-là étaient des critères déterminants pour la réussite. Donc j'ai vraiment fait en sorte de travailler de longue haleine pour trouver le bon emplacement et ce qui derrière a payé aussi.
Donc du coup, tu dirais que dans le cheminement, ça a été identifier la bonne franchise, entre guillemets, ensuite identifier le bon emplacement. Et quand tu as les deux qui matchent, c'est là que tu te dis je me lance?
Tout à fait. En fait, il y a aussi un critère géographique en fait dans le niveau de maturité d'une enseigne. C'est-à-dire qu'un développement pour une enseigne, la franchise, le fait de franchiser son concept va permettre de mailler un territoire et de développer en nombre d'unités la présence. La maturité d'une enseigne va permettre d'avoir des opportunités ou pas. Puisqu'une enseigne qui a déjà une centaine d'agences ou de points de vente, bah avoir moins d'opportunités sur la zone que nous, on souhaite avoir. Et à l'époque, comme je te disais, moi j'étais à Lyon et le développement de Memphis était en cours. Donc en fait, il y avait quelques opportunités disponibles dans les secteurs. Lyon n'était pas disponible. Par contre, il a fallu que je m'expatrie sur Chambéry pour pouvoir développer et porter l'enseigne.
Alors ça, on en reparlera effectivement, cette notion de parfois il vaut mieux rester proche de chez soi, parce qu'il y a cette question aussi en fait familiale, et les franchiseurs sont très sensibles à ça, de se dire si on déménage complètement et on embarque famille et enfants pour ouvrir la franchise parce que autour de chez soi il n'y en avait pas, c'est une vraie question, cette question de l'emplacement. Et donc toi du coup, tu as vraiment un peu fait ça, tu as fait voilà un déménagement. Mais quand même pas trop loin, du coup, Chambéry, c'était pas
Oui,
trop loin de
c'est une
Lyon et
centaine de kilomètres,
tes
mais
racines.
ça nécessite en fait de restructurer finalement son côté familial, puisque bah, j'étais propriétaire à Lyon, il a fallu vendre, déménager, enfin, ça implique beaucoup de choses. Et le fait aussi d'être éloigné géographiquement, bah, du coup, on est pris par un projet professionnel, on s'éloigne pour un temps de ses amis parce qu'on est concentré, on est focus sur le développement de l'activité qui est très prenante. Donc effectivement, c'est des choses vraiment à regarder.
Et alors comment ça se passe du coup? Tu me disais qu'il y a eu 3 ans. 3 ans entre le salon et le lancement
Oui,
effectif
tout
de
à fait.
l'enseigne. Est-ce qu'il y a, on va dire, peut-être 2 ans de tâtonnement et 1 an de préparation vraiment active? Comment ça s'est fait le lancement donc
En
de
fait,
ta première franchise?
première rencontre avec Memphis, ça match. Ensuite de ça, on détermine un projet de développement sur les secteurs d'activité, sur secteur géographique, pardon. Et à ce moment-là, on se met en quête de trouver un emplacement. Et là, on se rend compte que bah, les bons emplacements sont rares pour pouvoir amener à la réussite. Et pendant 3, 4, 5 mois, 6 mois, j'ai l'espérance de pouvoir trouver rapidement un emplacement pour pouvoir développer le concept, hein, parce que on a envie, on est dans les starting blocks, on est chaud bouillant pour pouvoir y aller. Et en fait, il y a la réalité qui rattrape, c'est qu'à un moment donné, il faut se dire, OK, ça fait 6 mois qu'on cherche, à un moment donné, il faut poser les choses. Lorsque je vais lancer l'activité, je vais avoir besoin de pouvoir avoir un temps pour me rémunérer aussi. Donc du coup, j'ai décidé, en ayant ce projet-là, de reprendre un emploi salarié pour attendre et trouver l'opportunité de pouvoir trouver un bon emplacement.
Ok, donc c'est là effectivement où j'allais venir à cette question-là. Est-ce que tu coupes tout et tu te lances à 100%? Est-ce que le début finalement de la réflexion peut, voire même doit se faire encore dans le cadre d'un emploi salarié? Parce que ça permet de préparer les choses, mais de ne pas être entre guillemets sans filet. Et voilà, si ça prend 6 mois ou plus pour trouver le bon emplacement et que toutes les étoiles s'alignent, il vaut mieux avoir un salaire pendant ce temps-là et de ne pas être complètement entre
Tout à fait.
guillemets.
En fait, ça dépend dans le secteur d'activité dans lequel on va se lancer. Dans une activité de service, la partie emplacement est quand même moins déterminante que dans le commerce. Donc, quand on est dans une activité de commerce, c'est vrai que pour moi, il vaut mieux rester salarié au maximum de ce qu'on peut le faire pour pouvoir, le jour venu, basculer du côté entrepreneur. Dans une activité de service, on n'a pas cette contrainte-là. Donc en fait, je ne vais pas dire qu'on peut du jour au lendemain lancer l'activité, mais presque.
Ok. Et alors du coup, quand tu trouves enfin le bon emplacement, le bon local, c'est là vraiment que le basculement se fait de ok, maintenant il y a tout, c'est prêt, il n'y a plus qu'à préparer entre guillemets le rétro-planning d'ouverture.
Alors c'est pas aussi facile que ça,
Ok.
puisqu'en fait, ce bon emplacement, il fallait le construire, puisqu'en fait c'est un nouveau bâtiment. Effectivement, et donc là on part sur des délais et des aléas de chantier, de construction. Et en fait, la difficulté c'est de faire ce rétro-planning en ayant une date de début qui est mobile en fait, puisqu'en fait on ne sait pas quand est-ce que le bâtiment va être livré. Et là on subit la pression du bailleur qui vous dit en fait, dès que le bâtiment est terminé, il faut faire la prise à bail, etc. Et nous en tant que franchisé, on a quand même quelques petites choses à préparer avant de lancer l'ouverture.
Sur cette question-là, est-ce que pour l'emplacement, ça a été c'est une zone commerciale, c'est un centre-ville, c'est un centre commercial qui se crée, il y a des lots et tu en choisis un, c'est toi qui choisis un espace et qui construis ton bâtiment comme on ferait une maison individuelle et pas donc dans le cadre d'un centre commercial? C'était quoi du coup?
En fait, le secteur, c'est une zone commerciale. Et c'était une parcelle qui était là depuis une dizaine d'années et qui a fait l'objet d'un concours pour pouvoir construire un nouveau bâtiment commercial, puisqu'elle est vraiment située au cœur de la zone commerciale. Et donc, il y a eu différents recours qui ont fait perdre du temps aussi dans le lancement de l'activité. Donc, c'est vrai qu'entre la théorie et la réalité, il y a une différence. La difficulté à ce moment-là, c'est il faut l'entrepreneuriat et la franchise, il faut convaincre beaucoup de personnes hein, finalement, parce qu'il faut convaincre le franchiseur qu'on est le bon candidat. Là, il faut convaincre un bailleur. Le bailleur, quand on a un bon emplacement, il faut le convaincre de nous faire confiance, puisque finalement, il y a plein de candidats et des enseignes nationales avec des moyens qui sont démesurés, qui veulent prendre cet emplacement. Donc, il faut aussi faire un travail de conviction et de réassurance. Et aussi le fait de porter ses responsabilités. Et lorsque j'ai pris le bail, par exemple, de ce restaurant, j'ai mis en jeu ma caution personnelle en cas de défaillance. Donc, c'est des éléments comme ça qui ont permis au bailleur de me faire confiance pour nous proposer cet emplacement.
Ok. Et donc, quand tu l'as enfin eu, est-ce que les choses vont très vite à ce moment-là, ou là encore, il y a toute une préparation, le recrutement des équipes, l'approvisionnement du matériel,
Alors c'est la chance et c'est la force de la franchise, c'est qu'en fait, on le verra plus tard dans la formation du concept de la franchise, qu'est-ce que c'est la franchise, mais globalement, on achète un concept. Donc architectural, organisationnel, on achète une marque, et nous, on est indépendant. Par contre, il faut travailler sur la partie ressources humaines et avoir toute la partie recrutement. puissent gérer tout ce qui est inhérent à l'ouverture d'un nouveau commerce. Mais effectivement, tout ça, ça se fait avec différents partenaires, avec Pôle emploi qui va venir aider sur la partie recrutement, avec un maître d'œuvre, etc., etc.
Ok. Et donc, du coup, ce premier lancement, il se passe bien, il est compliqué, il va vite, il est long.
Alors, Memphis, on a ouvert en fin 2015 et en fait, ça a été un succès incroyable. Quelque chose qui est inenvisageable, qu'on peut pas imaginer avant. On a donc ouvert avec 35 personnes, on a un restaurant qui fait 450 mètres carrés, on a 136 places assises et en fait, le succès est immédiat. Et versus ce que j'ai connu précédemment, en fait, ça valide le fait d'adhérer à une franchise. C'est vraiment quelque chose qui valide en fait un concept économique, un modèle économique. Et pour le coup, ça a été le succès immédiat. On a eu pendant des mois et des mois, l'effet d'ouverture, hein, puisqu'on parle d'effet d'ouverture, des gens qui se pressent pour se voir, a duré plus d'un an. Et quasiment à chaque service, on avait 15, 20 mètres de queue de personnes qui attendaient. C'était juste extraordinaire. Le pendant, c'est que c'était un truc,
un rush monumental.
Un rush monumental et une vague de choses à gérer qui a été incroyable. Les équipes, en fait, on commence dans le lancement d'activité, on commence avec des équipes, même si elles sont formées, mais elles ne sont pas encore totalement rodées. Donc, avec tous les couacs d'ouverture, le nouveau matériel, les problèmes de matériel, les problèmes de personnel, etc. Et c'est vrai que j'avais anticipé beaucoup de choses, mais pas ce succès aussi important. C'est assez paradoxal, mais finalement, c'est le pendant de tout ça, c'est qu'il faut se préparer à l'échec, mais aussi il faut se préparer au succès. Et le modèle économique de la franchise est quand même plus favorable, puisqu'en fait, on travaille des process, on travaille un concept qui est déjà établi et déjà opéré par d'autres personnes qui ont déjà amélioré le concept. Donc l'ouverture s'est faite. Pendant un an, un effet d'ouverture important. 95% des problématiques étaient liées au personnel, donc à savoir le recrutement du personnel, la montée en compétence du personnel, le fait que le personnel vienne travailler, qu'il soit agréable avec les clients, etc. Et c'est vrai que lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, on y met ses tripes, on y met son cœur, on y met ses économies, on y met la volonté de réussir, on y met des valeurs aussi, hein, puisque à l'époque, ce qui m'avait vraiment plu chez Memphis, c'est ce côté expérience client. Puisqu'en fait, on arrive dans un Memphis, un diner américain des années 60, et on arrive dans un univers qui est complètement une bulle, on est vraiment dans une bulle spatio-temporelle, on n'est plus dans telle ou telle ville en France, on est vraiment projeté aux États-Unis.
Au bord de la route 66.
Exactement, et pendant le temps d'un repas, une heure et demie, on est projeté là-dedans. Avec toutes les valeurs de cette époque-là, c'est-à-dire notamment la partie « tout est possible », tout est réalisable et les gens qui ont envie de se bouger et envie de réussir, ils ont l'opportunité ça. Donc on avait travaillé tout un projet d'entreprise à l'époque pour embarquer aussi les équipes, puisque la partie managériale, c'est, comme je disais tout à l'heure, un élément prépondérant dans cet univers. Et il a fallu porter les équipes pour faire face à cette vague de travail et d'affluence. Et c'était des choses qui étaient, assez dur en termes d'horaire. Je me rappelle d'une fois où mon réveil sonne et en fait, je rentrais chez moi et je mettais mon réveil et tu sais, quand tu mets ton réveil, il dit il sonne dans.
Oui.
Et mon réveil sonnait dans 1h57. Et en fait, pendant 6 mois, j'ai dû dormir entre 2 et 4 heures par nuit, tellement wow. Il a fallu gérer en fait tout ça. Le retour d'expérience que j'ai par rapport à ça, c'est vraiment de savoir s'entourer. Et ça, c'est un point d'accélération pour les gens qui vont se lancer dans la franchise. C'est que oui, devenir son propre patron, ça ne veut pas dire de tout gérer. Et il faut avoir quand même en tête de pouvoir s'appuyer sur des personnes compétentes pour pouvoir gérer au moins certaines parties de l'activité.
Donc ça, c'est peut-être le plus grand enseignement de ta première franchise, ça a été de te dire je veux tellement que ça marche que je veux être au four et au moulin. Et en fait, ça a été aussi un petit peu la partie difficile, c'est que tu portais tout le truc tout seul.
Oui, enfin tout seul. À l'époque, j'avais recruté une directrice qui m'a beaucoup soutenu et qui a été très, très performante aussi. Mais à deux pour gérer 35 personnes, en fait, on sent les limites du management direct. Et il faut vraiment travailler sur une équipe de managers intermédiaires pour pouvoir se décharger de certaines choses. Parce qu'en fait, au final, quand on est chef d'entreprise, on doit avoir en fait, cet effet opérationnel, visionnaire, donc prendre de la hauteur, répondre à des problématiques quotidiennes, prendre de la hauteur. Et finalement, j'ai été pris, absorbé par l'opérationnel, et ce qui ne m'a pas fait lever la tête pendant 2 ans. Et du coup, en fait, ça, j'ai voulu tout faire, et finalement, ça m'a fait perdre du temps dans mon développement futur.
Ok. Donc du coup, je vois 1 an de succès et d'effet d'ouverture, 2 ans où tu es quand même encore tête dans le guidon. La troisième année, qu'est-ce qui se passe? C'est là où tu prends vraiment de la hauteur, tu prends du recul?
Oui, alors là, j'ai la chance d'avoir un nouveau directeur avec qui je vais travailler et avec qui on va pouvoir asseoir plus les choses, puisque lorsqu'on lance une activité, on n'a pas on ne peut pas regarder dans le rétroviseur. La saisonnalité des ventes, on ne la connaît pas. Donc, comment on fait pour faire un planning pour les équipes, puisque ce qui en fait, répond en fait, à l'affluence, c'est les personnes qu'on va allouer sur le service. Et là, au bout de 2-3 ans, donc l'effet d'ouverture est passé. On commence à avoir des chiffres qui permettent de faire son expérience, voilà, de rythme de croisière, et de pouvoir asseoir des choses et de commencer à construire quelque chose et de monter une équipe, enfin d'avoir aussi des personnes sur qui avoir confiance, parce que lorsqu'on lance une activité, ben on ne connaît pas forcément les gens, on les recrute, mais de savoir sur qui on peut s'appuyer. Donc en fait, la force au bout de 3 ans, c'est d'avoir réussi à avoir une équipe de gestion qui soit forte, d'avoir de l'historique pour pouvoir prévoir le futur, et ça commence en fait à structurer l'activité. Et moi, ça me permet de prendre un peu de recul pour dire, voilà, j'ai lancé ce premier point de vente. Ben maintenant, comment je peux faire, puisque j'ai une volonté encore de développement, comment je peux faire pour aller plus loin.
Ok, et donc c'est là où germe dans ton esprit l'idée de ne pas être le patron d'une franchise, mais de devenir serial franchisé, d'ouvrir d'autres franchises.
En fait, dès le départ, j'avais l'idée de vouloir développer plusieurs points de vente. Même dans la structuration des sociétés, on en parlera plus tard, mais dès le départ, j'avais déjà créé une société holding dans laquelle il y avait en dessous la société d'exploitation. Et c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un outil pour plus tard, pour le développement aussi bien patrimonial que professionnel, qui va permettre d'accélérer les choses. Donc dès le départ, j'avais ça. Par contre, j'imaginais pas passer autant de temps dans le pur opérationnel.
Ok. Et donc, à quel moment tu avais cette idée-là, encore une fois, tu passes 3 ans à gérer donc, cette enseigne Memphis. À quel moment tu sens que tu peux basculer ou tu sens que tu as envie d'ouvrir d'autres franchises?
Je sens que je peux le faire à partir du moment où je peux prendre pour la première fois 3 semaines de vacances. Et c'est un vrai signal, parce que lorsqu'on est toujours là, mais pas là, même si on ne fait pas, quand on prend 3 semaines de vacances, je suis parti 3 semaines en Thaïlande. Et quand je suis revenu et j'ai vu que l'équipe de gestion et que en fait ça tenait et que les gens avaient géré tout seul, je me suis dit, bah, en fait, c'est le bon moment pour réfléchir à développer autre chose.
Okay.